François-Xavier Fauque, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour Sam, un plaisir d'être avec toi.
Donc, François, si tu pouvais te présenter, nous parler de ton entreprise, tes activités.
Alors, mon nom François-Xavier Fauque, je suis copropriétaire de l'entreprise Chapeau les Bois ici à Québec. Pendant de nombreuses années, on va dire pendant 7-8 ans, on a été très spécialisé sur la distribution au niveau de la restauration de produits forestiers. Et on a eu aussi tenu boutique au marché du Vieux-Port pendant 5 ans, 6 ans, pour vendre nos produits transformés à base de produits forestiers aussi, donc champignons, petits fruits extractibles, plantes, etc.
Donc, si tu pouvais nous dire un peu, c'est quoi ton histoire, comment tu as fait pour te retrouver dans cette industrie-là des PFNL? Ça vient d'où tout ça?
Faut remonter à mon arrivée ici à la fin des années 80, quand je suis arrivé au Québec. Je suis arrivé en 89. J'ai eu la chance d'être accueilli dans la région de Charlevoix et d'être accueilli chez l'habitant dans le cadre d'un échange entre les deux municipalités qui étaient jumelées. Donc, mon petit village dans les Alpes, qui s'appelle Voreppe, était jumelé avec la Malbaie, et dans le temps, il y avait l'association Québec-France, France-Québec, qui faisait des échanges pour les jeunes, qui permettaient à des jeunes de la région de Charlevoix de partir dans les Alpes pendant le temps d'un été avec un contrat de travail, et de la même manière, qui nous permettait, nous, jeunes Français, de venir découvrir la province du Québec en séjournant à la Malbaie avec un petit contrat de travail aussi pour l'été. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé, moi, ici au Québec. Et j'ai eu la chance, comme je te dis, d'être accueilli chez l'habitant, chez deux personnes extraordinaires. J'ai pu découvrir vraiment le côté de nature. J'étais déjà un fervent parce que dans les Alpes, j'ai beaucoup pratiqué les sports de montagne dans ma jeunesse. Et puis, j'ai eu la chance aussi de pratiquer beaucoup de sports nautiques. Mon père était propriétaire d'une école de plongée. Donc, j'ai eu la chance de pratiquer beaucoup de sports, moi, de plein air, d'extérieur, du ski en passant par la plongée, la voile. Et ça m'a tout de suite donné la piqûre là, du plein air. Donc, quand je suis arrivé ici, moi, j'étais comme absolument émerveillé là, par l'immensité, par le côté sauvage de la nature. Et puis, Yvan, qui était la personne qui m'a accueilli chez eux, Yvan et Francine, c'est quelqu'un qui était vraiment un amateur, ce qu'on appelle un amant de la nature, chasseur, pêcheur. Donc, il m'a donné un peu la piqûre, il m'a traîné dans le bois avec lui, et ça m'a vraiment marqué. Ensuite, j'ai rencontré ma compagne Céline, qui est aussi mon associée, qui est copropriétaire de Chapeau les Bois avec moi. On avait le désir là, de pratiquer des activités de plein air aussi. Donc, on a repris une pourvoirie de chasse et pêche au nord du lac Saint-Jean, au 50e nord très précisément, un accès par hydravion. On a fait ça pendant 5 ans. C'est là vraiment que j'ai eu la piqûre là, le monde forestier au Québec, les produits forestiers, etc. Alors, c'est sûr que la chasse et la pêche, ça faisait partie des activités que j'ai d'abord pratiquées, mais je me suis aperçu qu'il y avait aussi beaucoup de potentiel au niveau des cueillettes de produits forestiers. J'avais une petite expérience, moi, étant donné qu'au niveau culturel, en Europe, la cueillette de champignons, c'est quelque chose qui est pratiqué, en famille. On a beaucoup de références aussi dans chaque petit village. Les pharmaciens sont les gens qui ont la connaissance mycologique. Donc, c'est très facile pour les gens de faire des cueillettes et puis d'aller faire identifier si jamais ils n'ont pas la connaissance eux-mêmes pour être capable de savoir si c'est consommable ou non. Alors, évidemment, j'avais on va dire, ce petit avantage-là culturel, entre guillemets, de cueillette de champignons, là. Et c'est comme ça que je suis rentré petit à petit dans le monde des PFNL ici au Québec. Quand on a laissé la pourvoirie, on a voulu rester un petit peu dans le domaine de la foresterie pour faire de l'accueil forestier. Donc, en 95, on a ouvert une agence de voyage, qu'on a toujours d'ailleurs, qui s'appelle Amérique Voyage. Donc, une structure d'agence conventionnelle pour vraiment faire de l'accueil forestier, puisqu'on appelait à l'époque de l'hébertisme, ben, ça reprenait un peu dans ce sens-là. Il y avait comme une petite volonté là au niveau gouvernemental de refaire redécouvrir un peu les activités d'interprétation forestière. Donc c'est dans ce cadre-là que je me suis mouillé un peu dans le bain des PFNL, puis ça a toujours continué jusqu'à présent, avec le volet de distribution puis de produits forestiers là, qu'on a développé, comme je te dis, il y a maintenant 8 ans. Donc voilà comment je suis arrivé un petit peu dans le domaine des PFNL ici au Québec, là. Surtout par amour, par passion.
Mm-hmm. Puis Chapeau les Bois, comment c'est arrivé? Chapeau les Bois, c'est la compagnie de distribution, de transformation des produits. Comment t'es passé de le tourisme, la pourvoirie, l'éducation à la production alimentaire?
Alors, en fait, j'avais, moi, mon hobby, c'était vraiment la cueillette depuis quelques années au niveau des champignons et des petits fruits. Et puis, j'avais quelques amis ici dans la région Québec, capitale nationale, avec qui je partais faire des cueillettes depuis quelques années. Et puis, c'est en jasant avec mon monde, là, ils m'ont demandé de faire de la mise en marché. C'est des profils de cueilleurs qui n'ont pas toujours ni l'envie ni l'expertise pour faire la mise en marché des produits qu'ils vont cueillir. Et puis, c'est pour ça qu'ils m'ont demandé de commencer à développer le volet commercial sur les cueillettes qu'on pouvait faire, étant donné qu'on commençait à avoir vraiment des volumes intéressants. Après nombre d'années de prospection, on commençait vraiment à avoir un territoire viable pour la cueillette commerciale. Mais je me suis vite aperçu que finalement, à l'échelle de quelques cueilleurs, ça suffirait jamais vraiment pour faire de l'approvisionnement là, au niveau de la restauration notamment. De surcroît, pour amener ça dans les tablettes des épiceries, ça prend des volumes et de la constance. Donc, je me suis efforcé de mailler des rapports avec beaucoup de cueilleurs partout au Québec. Et puis, présentement, Chapeau les Bois, ça représente peut-être une 60aine de cueilleurs en tout et partout de la province de Québec pour nous faire de l'approvisionnement. Donc, mes cueillettes et celles de mes compagnons de cohorte ici dans la région capitale nationale, bien vite, on s'est aperçu que ça ne suffirait pas en termes de volume. Et c'est comme ça que j'ai commencé à développer et puis à étoffer un petit peu l'offre de Chapeau les Bois auprès de la restauration ici.
Mm-hmm. Puis pour la mise en marché, ça a été quoi ta stratégie pour rentrer en contact avec des acheteurs potentiels? C'est quoi, tu cognes à la porte des cuisines? Comment ça marche pour aller chercher de la clientèle?
À vrai dire, j'avais quelques connaissances, j'avais quelques amis dans le domaine de la restauration ici à Québec, quelques chefs que je connaissais de manière personnelle, qui connaissaient un peu mes activités, puis ma propension à aller dans le bois, puis à faire de la cueillette. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à approcher la clientèle, mais c'est surtout après ça du démarchage et de rentrer dans les cuisines qui m'a permis là, de monter ma clientèle ici à Québec. On peut dire que ça a pris 2-3 ans là, avant de commencer à consolider vraiment une clientèle de restauration. Ces rapports-là, c'est très simple. Ça s'établit sur la confiance, c'est-à-dire que les chefs, eux, on sait ce qu'ils veulent. Ils veulent avoir des champignons de bonne qualité, dans les bons grades, avec de la fraîcheur qui leur permet de faire un petit peu de conservation, même s'ils ont besoin avant de cuisiner ou de passer ces champignons-là. De la variété. Donc, on a réussi à mettre en place un petit peu cette formule-là pour eux. Et puis après ça, ben, c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que tu veux avoir des champignons de manière constante, etc., ben, prends-moi des commandes à chaque semaine, puis je vais être là pour toi à chaque semaine avec les espèces dont tu as besoin, avec des petites nouveautés si tu as besoin, te faire découvrir d'autres produits. Mais par contre, ça prend quand même... il faut que les gens soient un petit peu fidèles au niveau de la clientèle. C'est-à-dire que c'est facile pour un chef là, de sauter du coq à l'âne, comme on dit, puis le jour où il y a des cueilleurs qui rentrent à la porte de la cuisine en arrière avec des champignons, de leur bargainer ça pas cher, de prendre ça. Puis après, soit quand t'arrives, toi, pour prendre tes commandes en semaine, « Ah, ben là, j'ai ce qu'il faut. Ah, ben là, j'ai eu des cueilleurs qui sont passés. Ben, » ces chefs-là, généralement, ils restent pas vraiment des clients de Chapeau les Bois. Ils se débrouillent après. il y a une question de fidéliser la clientèle, mais il faut être fair. C'est-à-dire que si on fait des efforts pour un restaurateur d'être là chaque semaine pour lui, de lui amener de la constance, de la variété, de la fraîcheur, bah, il faut qu'il soit là aussi pour nous chaque semaine pour nous prendre des commandes. Si c'est erratique, sporadique, ça m'intéresse plus ou moins de travailler avec eux. Et puis ces chefs-là, ils s'aperçoivent que d'avoir un cueilleur qui rentre une fois la semaine des 4 jeudis, versus une entreprise comme Chapeau-les-Bois qui t'assure d'avoir une constance puis un volume de champignons pendant toute ta saison, généralement le choix est vite fait par les chefs. Ils ne vont pas trop voir ailleurs, puis ils restent fidèles à ce qu'on leur propose à chaque semaine.
Mais il y a quelque chose d'intéressant avec la fidélité et la constance de cueillette, parce que on a l'impression qu'un restaurant, en général, ça a un menu plus ou moins fixe. Bon, il y a bien sûr de plus en plus de restaurants qui ont des menus reliés à la saisonnalité. Mais on dirait que les PFNL, c'est encore plus difficile d'avoir de la constance vu que la saisonnalité est très petite hein, pour certains champignons. Donc, la stratégie que j'entends, c'est qu'il faut avoir pour toute la saison entière un calendrier de cueillette très diversifié pour assurer cette constance-là.
Absolument. Je veux dire, dans l'été, on va commercialiser grosso modo entre 12 et 15 espèces de champignons sauvages. Et c'est sûr que le début des cueillettes, un exemple pour la chanterelle, qui est un des champignons là, les plus demandés au niveau de la restauration, et puis maintenant même au niveau du grand public. La chanterelle, on peut considérer que le début de la cueillette se fait à peu près à la mi-juillet. Dans les régions de l'Estrie, la région de Sherbrooke, vraiment le sud du Québec. Ensuite, la cueillette s'échelonne pratiquement jusqu'à la fin septembre par région. Ça se déplace là au niveau de la cueillette. On est capable d'avoir quand même un bon 2 mois d'approvisionnement de la chanterelle, mais ça, c'est le maillage qui nous permet de le faire, d'avoir des cueilleurs dans chaque région, puis de pouvoir faire sortir les cueillettes au fur et à mesure que la saison avance, toujours pour avoir, comme je te l'expliquais tantôt, les bons grades, la fraîcheur et le volume de champignons. Donc, c'est une question d'organisation beaucoup. Comme je te dis, ça nous a pris quand même plusieurs années là, à créer notre structure là, pour la distribution. Mais c'est comme ça qu'on arrive à avoir une période assez longue là, sur les cueillettes, pour chaque espèce, puis d'être capable de proposer ces espèces-là, pas seulement une semaine là, au niveau de la restauration, mais de manière redondante. Là, comme on...
Est-ce que c'est seulement les ateliers de conditionnement qu'on appelle, c'est-à-dire les lieux de distribution qui reçoivent les champignons de plusieurs cueilleurs qui peuvent seulement faire cette offre-là? Parce que je pense à tu parlais à un cueilleur du dimanche qui ne fait que la cueillette d'une seule espèce et vient par la porte d'en arrière, ça peut être critiquable, mais en même temps, un cueilleur individuel n'a peut-être pas la capacité d'avoir toute cette diversité de champignons-là. Donc, c'est quoi la place entre les distributeurs et les cueilleurs individuels, puis le lien avec les restaurants?
Chez Chapeau-les-Bois, je veux dire que la place, il y a de la place pour les deux, en fait. C'est-à-dire qu'on a des cueilleurs individuels qui viennent nous porter leur cueillette. Et puis, on a aussi des entreprises qui font de l'achat au niveau des régions, ce qu'on appelle des postes d'achat, avec qui on travaille. Donc, et ça nous permet d'avoir, comme je te dis, un bon volume là, d'approvisionnement. Mais on est aussi approvisionné par les entreprises que par les particuliers. Donc, après ça, c'est une question de confiance avec le cueilleur, de savoir qui cueille exactement les grades dont on a besoin, qui nous amène du champignon qui a de l'allure. Un cueilleur qui a du soin dans sa cueillette, on voit qu'il est soigneux, qu'il fait vraiment attention à ce qu'il fait. C'est des cueilleurs avec qui on va travailler longtemps. Par contre, des cueilleurs qui sont botcheux, qui ramassent pour avoir la pièce, là, et qui ramassent un peu tout et n'importe quoi en termes de qualité, c'est des gens avec qui on ne travaille pas. Mmh. On les reçoit une fois, on regarde leur cueillette, on leur parle, on leur dit ce qu'on veut exactement, puis la deuxième fois qu'on les reçoit, si jamais ils n'ont pas compris, eh ben c'est just too bad, on passe à un autre appel. Nous, on est obligé d'être un petit peu ferme là, avec ça, mais on n'a comme pas le choix, parce qu'au résultat, c'est les produits qui arrivent sur le marché. C'est ce qu'on veut avoir, nous, en termes de qualité. D'abord, parce que ces produits-là, ils ont besoin d'avoir une qualité. C'est des produits frais de cueillette. Tu ne peux pas avoir des produits scrap forestiers qui arrivent sur les tablettes. Les gens vont trouver qu'on se fout d'eux et puis que ce n'est pas des beaux produits. Donc, il faut vraiment qu'on ait le mieux de ce qui sort de la forêt pour être capable de mettre ça sur les tablettes. Enfin, c'est important.
Puis sur les presque 10 ans que tu es maintenant dans ce secteur-là, comment tu as vu les choses évoluer autant dans l'offre, c'est-à-dire la diversité des produits qui se vendent, le nombre de cueilleurs, etc., et de la demande, les restaurateurs et le grand public? Comment tu as vu ça évoluer dans les 10 dernières années?
Ben, c'est drôle à dire, mais j'ai vu comme une décroissance d'un côté puis une croissance de l'autre. C'est-à-dire que la demande, elle est croissante. La demande, de plus en plus, est croissante. On le voit, les émissions de foodies, les articles de presse qui parlent des chefs, des produits locaux, des produits de terroir, etc. ont mis ces produits-là sur la map depuis plusieurs années. Et on voit qu'au niveau du public, on a une très belle réponse maintenant. Les gens sont très intéressés à consommer ces produits-là. On a une demande qui est croissante. Ça, c'est indéniable. Je peux dire que c'est peut-être multiplié par 10 en 10 ans. La demande qu'on peut avoir sur ces produits-là. Par contre, au niveau de l'offre, ben là, on commence à avoir quelques problèmes. C'est-à-dire qu'il y a maintenant sept ans, il y a des formations qui ont été mises sur pied au niveau de certains cégeps pour la cueillette des PFNL. On avait un gros espoir d'avoir des cohortes de cueilleurs professionnels qui sortent de ces formations-là. Dans les premières années, il y a des postes d'achat qui ont été montés, qui ont ouvert grâce à des subventions, là, beaucoup, qui ont ouvert dans les régions. Et de ces postes d'achat-là, je pense qu'il y en a plus que la moitié maintenant qui ont dû fermer. Donc, pour plusieurs raisons. Première raison, à mon avis, qui a tué un petit peu l'activité de ces postes d'achat en région, c'est le coût d'achat des champignons. Ils sont partis sur des bases qui étaient vraiment trop basses là, pour que ce soit intéressant pour des cueilleurs de rentrer dans le bois puis d'aller cueillir de manière commerciale. Donc, à force de se faire payer à coups de lance-pierre, ben, les cueilleurs qui sont sortis des cohortes de formation en cégep, qui étaient habilités comme cueilleurs professionnels, ces gens-là se sont écœurés de sortir et d'aller cueillir pour rien. Alors, ça a amené la fermeture de ces postes d'achat-là, évidemment. Moins tu as de volume de champignons, moins tu as de cueilleurs qui t'amènent des champignons et moins tu fais de volume. Puis à un moment donné, ben, tu ne peux plus supporter toute la structure là, de paye des employés, matériel, location, etc., des postes d'achat. Donc, ça a fermé à cause de ça, beaucoup. Et ça, c'est ce que je regrette. C'est vraiment déplorable parce que on aurait eu besoin, au contraire, de l'augmentation là, de ces activités-là par rapport à la demande qui était sans cesse croissante. Alors, on a pallié un petit peu à ce manque-là de postes d'achat en passant en direct avec les cueilleurs pour la plupart. Ce qui fait bien leur affaire, je dois te dire, parce que c'est toujours plus intéressant d'être mieux payé pour ces champignons. Et nous, Chapeau les Bois, on est reconnu comme une des entreprises au Québec ou l'entreprise au Québec qui payons le mieux les cueilleurs en termes d'achat de champignons. Tout d'abord parce qu'on est nous-mêmes des cueilleurs à la base, puis qu'on sait que c'est un travail fastidieux, puis on sait que c'est la clé. La clé, c'est de bien payer des cueilleurs pour avoir du beau champignon ou des beaux produits forestiers à distribuer après ça sur les marchés. Donc, on n'a jamais lésiné là-dessus, et je pense que c'est un peu ce qui a fait défaut en région pour ces initiatives-là qui ont périclité malheureusement.
Pour l'établissement des prix, là, tu dis que ces postes de vente vendaient ou achetaient les champignons à bas prix. Mais c'est qui avait établi ces prix-là et comment on établit les prix des PFNL? C'est souvent une question qui revient.
Ben, c'est tout simple. C'est-à-dire qu'un cueilleur, il peut évaluer son temps de cueillette par rapport au volume qui va sortir puis qu'il va être capable de commercialiser. Et en fonction de ce temps de cueillette, il va être capable d'évaluer un taux horaire. C'est clair que acheter, comme l'on fait pendant plusieurs années, ces postes d'achat en région, acheter, mettons, de la chanterelle à 7 ou 8 dollars le kilo au cueilleur, ben, je suis désolé, mais c'est ce qui tue le marché et c'est ce qui fait que les cueilleurs ne veulent pas les cueillir. Moi, j'avais demandé, dans les premières années où je suis rentré sur le CA de la CEPFNL, ça a été mon argument, là, c'était de définir un prix plancher pour les espèces de champignons cueillies par des cueilleurs professionnels et payées à des cueilleurs professionnels. Bon, j'ai beaucoup de gens qui ont été contre cette idée-là parce qu'ils pensaient qu'on allait se tirer dans le pied en fixant des prix d'achat assez hauts, alors que je savais pertinemment que c'était la clé pour pouvoir avoir vraiment une industrie qui se développe, puis d'avoir des volumes, puis des volumes de qualité qui sortent de la forêt. Il faut payer les cueilleurs. Donc, ça a été un petit frein, là, on va dire, au développement. Comment les gens ont évalué que ça se payait à 6 ou 7 ou à 8 dollars le kilo? Ben, c'est simple, hein, c'est les gens qui étaient dans les postes d'achat, eux, qui voulaient marger. Et puis, marger sur des cueillettes, ben, il faut que tu les achètes pas cher pour les vendre plus cher. Alors, c'est un peu comme des Shylock, finalement, qui sont installés en région, puis qui ont un peu tué le marché là, au niveau des cueilleurs, tout simplement. Dommage, mais c'est la réalité.
Puis, est-ce qu'il n'y a pas aussi la réalité du marché? Admettons, si on prend l'exemple du champignon, quand des champignons, par exemple, c'est la saison des morilles, elles viennent de Colombie-Britannique, ou bien des chanterelles provenant de l'Europe de l'Est, il n'y a pas cette réalité aussi d'un prix de marché que les restaurateurs, par exemple, s'attendent pour quelques produits qui fait que les gens ont des attentes que les cueilleurs peuvent juste pas répondre parce que ça aurait pas d'allure pour leur temps puis leur
travail. Pour les chefs qui fonctionnent puis qui achètent les produits qui viennent de l'Ouest, comme la morille ou la chanterelle, c'est des choix là, personnels de chaque chef. Mais moi, je peux te dire que les chefs qui veulent travailler le terroir du Québec, ils veulent pas travailler la chanterelle de l'Ouest, ils veulent pas travailler non plus la morille de l'Ouest. Bien que la morille de l'Ouest, bien souvent, c'est la seule morille fraîche qu'on peut avoir en saison, parce qu'au Québec, on a très, très peu de cueillettes de morille fraîche. Et on n'a pas les phénomènes de feux de forêt qu'il peut y avoir plus dans l'Ouest, où on est capable d'avoir vraiment des bonnes cueillettes de morilles de feu. Le fait qu'on n'ait pas de montagne, de région trop montagneuse ici aussi, ça aide pas dans le sens où, dans l'Ouest, sur la cueillette de la morille de feu, ils peuvent commencer à accueillir une semaine et ils savent que dans deux semaines, ça va commencer à flocher un petit peu plus haut en altitude et ils peuvent étaler comme ça une cueillette sur un mois et demi, voire deux mois. Au Québec, quand il y a de la morille de feu qui sort et que ça floche, il faut tout cueillir parce que ça floche tout en même temps. Il n'y a pas de sortie étagée, comme on va dire. Alors ça, c'est un peu plus délicat. Mais bon, pour ça, c'est un produit très spécifique, la morille de feu. Là, mais pour la plupart des autres champignons, les chefs québécois, là, ils veulent travailler les produits du Québec. Il y a quelques chefs qui vont tricher un peu en se faisant venir de la chanterelle de l'Ouest quand on n'en a plus ici au Québec pour être capable de continuer de proposer de la chanterelle au niveau du menu. Mais ils sont rares quand même, ces chefs-là. A priori, les chefs québécois ou les chefs des restaurants au Québec, ils veulent des champignons du Québec. On a une très belle qualité en plus ici au niveau des champignons.
Puis pour l'établissement de prix plancher, est-ce que ça se fait au grossiste, au détail? Est-ce que c'est le prix qui est acheté directement au cueilleur qui sort de la forêt? C'est comment qu'on établit un prix plancher?
Ben, pour être fair, il faut être fair cueillette d'un kilo de chanterelle de grade A. Je vais te donner mon prix d'achat. Il s'échelonne entre 18 et 20 dollars le kilo. Comme je te dis, en chapeau les bois, on est une entreprise qui payons le mieux là, les cueilleurs au niveau des espèces de champignons. Pour moi, c'est clair qu'entre 18 et 20 dollars le kilo pour un grade A, c'est-à-dire un grade extra là, au niveau de la chanterelle, c'est pas trop cher payé et c'est pas payé, c'est-à-dire c'est un prix qui est honnête. Ça nous permet, nous, derrière, au niveau de la vente au détail ou à la distribution, à la restauration, de marger des prix qui nous permettent quand même d'avoir une activité commerciale viable dans ce cadre-là. Mais c'est sûr que il faut que les cueilleurs soient rémunérés pour leur cueillette. Tu peux pas espérer continuer à développer un marché s'il y a des gens qui sont floués là-dedans.
Mmh. Puis, mis à part l'établissement de prix, c'est quoi que tu vois qui permettrait d'augmenter l'offre puis les cueilleurs dans le bois puis qui ferait grossir, qui ferait matcher en fait l'offre et la demande dans le monde des PFM?
C'est quoi? Donner le bon prix aux cueilleurs, tout simplement. Les encourager à rentrer chercher la ressource, parce que nous, notre clé là-dedans, c'est d'aller chercher la ressource. Et aller chercher la ressource, ben, ça prend des cueilleurs qui ont suivi la formation, qui sont certifiés, qui sont capables de dire, ben, moi aujourd'hui, je ne veux pas perdre mon temps quand je vais rentrer dans le groupe. Et elle est là la clé. Si les gens sont payés correctement pour les activités de cueillette, ils vont continuer à rentrer, puis ils vont être intéressés à avoir des volumes, puis de la qualité. Si on ne les paye pas, ils rentreront pas dans le bois, mais la ressource va rester là.
Créer l'incitatif économique. Puis sur le côté de l'encadrement puis la pérennité de la ressource, il n'y a pas aussi, si on augmente le nombre de personnes qui vont faire de la cueillette, il n'y a pas un certain danger sur l'intégrité des écosystèmes puis la pérennité de ces espèces-là?
En fait, il faut voir une chose, c'est que le couvert forestier au Québec, c'est 4 fois le couvert de la Scandinavie au complet. Et pour l'instant, là, la cueillette, c'est quelque chose de très anecdotique. Donc, du développement, puis de faire entrer du monde en forêt, là. Je pense pas qu'on ait de limite vraiment ici au Québec par rapport à l'étendue, des ressources. Ce qui est important, là, c'est de faire, comme on dit, un territoire où on va pas avoir, dans une zone, une surpopulation de cueilleurs, puis dans une autre zone, pas de cueilleurs. Donc, c'est répartir la pression, de cueillette sur le territoire de manière adéquate pour que la ressource sorte, que tous les cueilleurs aient de quoi sortir de manière intéressante pour eux. Et puis, avant qu'on soit saturé en termes de cueilleurs, puis de produits forestiers qu'on va chercher, là, il va couler de l'eau sous les ponts.
Ben, j'amènerais peut-être une nuance de dire que le couvert forestier est clairement large, mais il est différent et changeant. Les espèces qui sont en général menacées et protégées sont dans les populations des érablières du sud, qui ont été, bon, il y a eu une pression parce qu'on les a coupées d'une part, mais aussi des espèces comme l'ail des bois, bon, le ginseng ou la tête de violon, c'est dans les forêts du sud. C'est vrai que là, quand on rentre dans la forêt mixte puis dans la forêt boréale, là, le terrain de jeu est immense. Mis à part peut-être pour quelques espèces vedettes, comme par exemple le thé du Labrador. C'est quoi toi ta position sur le thé du Labrador et la pression qu'on y met?
Ben, c'est au niveau des utilisateurs, là. C'est sûr que là, dernièrement, on a vu que les distilleries ont mis beaucoup de pression là, pour avoir des accès au territoire et que ce soit soi-disant encadré, mais en fait, c'est pour qu'ils aient les mains libres pour être capables de prélever ce qu'ils veulent en termes de volume. Mais ce n'est pas les seuls utilisateurs au niveau de la ressource de thé du Labrador. Je pense qu'il va falloir encadrer, mais on va dire encadrer peut-être pas de manière trop rigoureuse. Donner des permis, puis faire payer 25 dollars la tonne métrique, là, moi je trouve ça complètement ridicule. Ça ouvre la porte à toutes sortes d'excès. Par contre, de voir à ce que les zones qui sont déjà bien achalandées au niveau de la cueillette ne soient pas surexploitées. Puis le thé du Labrador, ben, comme je te le dis, on a un territoire absolument immense, c'est vaste. Donc si on est capable d'organiser et de se déplacer pour changer un peu les sites de cueillette, on peut avoir une très belle pérennité sur la cueillette du thé du Labrador. On a aussi des choses qui peuvent être introduites en partenariat, comme j'ai entendu cet argument-là, de pouvoir s'organiser avec les compagnies forestières qui ouvrent les chemins en forêt pour faire les coupes forestières et de prélever la ressource au niveau du thé du Labrador avant que la coupe soit faite et passer encore derrière après la coupe, pour prélever la ressource, même à 100%, puisque ce sont des coupes forestières qui saccagent un peu les milieux. Donc, on peut se permettre de prélever des plus gros volumes là, dans ces zones-là, et puis après ça, de laisser ça en friche plusieurs années pour laisser le rhizome se refaire. Et on sait très bien que quand il y a eu une déforestation, une coupe forestière, derrière, les premières choses qui vont reprendre, notamment peut-être du Labrador, là, tout ce qui est plantes rhizomiques, sont très favorisés dans la repousse. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut envisager. Ça serait intelligent de voir ça comme ça. Surtout de répartir les pressions de cueillette de manière adéquate sur les territoires.
Est-ce que c'est la même chose pour un autre PFNL vedette comme le Chaga?
C'est un peu différent, on va dire. Le Chaga, ça, c'est vraiment très, très différent même. Le Chaga, c'est une ressource. C'est difficile de mesurer quelle est la ressource potentielle du Chaga à l'heure actuelle. On sait qu'il y a des méthodes de cueillette qui permettent une certaine pérennité, une certaine repousse au niveau des chagas. Mais le chaga, à mon avis, si jamais il y a un développement commercial qui se fait de manière importante, et quand je dis importante, c'est que ça devient vraiment un produit phare, il va falloir à un moment donné envisager la possibilité d'inoculer en forêt sur des territoires privés, parce qu'au niveau des terres publiques, tant que ce sera considéré comme un chancre, comme un parasite du bouleau, on aura du mal à faire passer cette idée-là. Mais je pense que sur certains boisés privés, il y a des gens qui pourraient commencer à envisager d'inoculer pour avoir de la ressource pour les années qui s'en viennent.
Intéressant. Est-ce qu'il y a des précédents sur l'inoculation de chaga, je ne sais pas, en Russie peut-être ou au Canada?
Québec. Il y a des tests qui ont été faits. Je pense, entre autres, Biopterre ont travaillé ça. Ça se fait très bien. Ça se fait très bien. Inoculer des bouleaux sains avec le chaga. Puis après ça, c'est une question de temps pour la pousse. Mais oui, ça se fait. Techniquement, c'est quelque chose qui se fait très bien. C'est juste qu'au niveau du gouvernement, le ministère des forêts, tant que le chaga va être considéré comme un parasite du bouleau, ils nous interdiront de faire de l'inoculation en forêt. Ils vont nous dire qu'on va parasiter les bouleaux, c'est un problème, etc. Donc il y a quelque chose à changer au niveau de cette mentalité-là. Peut-être en faisant plus de recherches en termes d'échanges chaga-bouleau. Je sais que Monsieur Larivière lui considère que c'est vraiment un parasite. Moi, je sais de sources sûres, parce que j'ai quand même eu accès à certaines données, notamment au niveau de recherche. Il y a beaucoup de choses qui sont publiées au niveau du chaga. C'est des gens qui disent qu'il y a presque rien au niveau des recherches scientifiques. C'est des gens qui se mettent le doigt dans l'œil et qui n'ont pas pris la peine de faire quelques efforts là de recherche, parce que il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont disponibles au niveau du chaga maintenant en termes d'études scientifiques. Mais c'est ça, on va, à mon avis, il y a quelque chose qu'il va falloir changer au niveau de la mentalité, puis de reconnaître que même si c'est pas une symbiotique, il y a quand même une synergie qui se passe avec le champignon, c'est-à-dire que il y a quand même des retours là au niveau de phytonutriments là, qui permettent au bouleau pendant l'hiver de passer mieux à travers. Là. Donc même si c'est un parasite, puis que c'est comme une carie en son cœur. Il y a quand même des échanges qui se font, qui permettent au bouleau de vivre sa vie, parce que bon, un bouleau qui est parasité par le chaga, ben il meurt pas instantanément, c'est-à-dire qu'il va faire sa croissance pour 20, 30, 40, 50 ans. Ensuite, sa vie va passer, le tronc va éclater, et à ce moment-là, la pourriture du tronc fait que il va pouvoir y avoir une reproduction, là, c'est-à-dire un genre de sporée humide là, qui va aller se replacer dans des faiblesses de troncs alentours. Alors, c'est de cette manière-là là, que le chaga va se développer en forêt. On aurait intérêt, très franchement, à étudier un peu plus la synergie entre l'arbre et le champignon, puis de pouvoir un jour décréter que finalement, c'est pas si parasitaire. On aurait peut-être intérêt à aider un peu la répartition du chaga en forêt.
Donc, on voit que tu as des positions sur l'aménagement du territoire, sur les techniques de cueillette. Puis, en plus d'être un entrepreneur, tu es aussi engagé, tu es président de la CPFNL et tu as un engagement bénévole et citoyen dans ce monde-là. En plus de tes intérêts d'entrepreneur, bien sûr, tu veux de la ressource pour continuer à développer ton affaire. C'est quoi qui te motive à t'engager dans ce secteur-là?
J'ai un fil conducteur dans ma tête des fois qui revient un peu... Qui revient assez souvent, on va dire. C'est un côté politique. J'ai vu depuis 30 ans ici au Québec un petit peu l'exode rural. L'activité en région s'amenuisait en termes d'activité économique. J'ai vu des entreprises fermer les unes après les autres, notamment celles qui ont un rapport avec tout ce qui est foresterie. Donc, des usines pâte et papier, des entreprises de coupe forestière, etc. On voit que c'est une ressource qui n'est plus tellement en demande. Et ça, au niveau de l'économie des régions, ben, c'est dramatique. Et moi, pour moi, l'avènement des PFNL, parce que je pense qu'il va vraiment y avoir un avènement des PFNL à un moment donné en termes de ressources forestières, pour que ce soit présenté de manière plus importante même que la ressource de bois, qui pour l'instant la ressource phare, là, quand on parle de ressources forestières, on pense juste à ça, biomasse, coupe forestière, etc. Moi, je pense que c'est quelque chose qui va pouvoir permettre une activité économique dans les régions pérenne, qui va pouvoir permettre aux gens de dire, ben moi je reste dans ma région parce que j'ai une activité ici qui est viable au niveau économique. Je suis capable de gagner ma vie en faisant de la cueillette de produits forestiers et puis en distribuant, en approvisionnant là, avec mes cueillettes les marchés. Donc, moi je pense que c'est ça qui me motive vraiment à continuer à mettre des efforts sur le développement des PFNL ici au Québec, parce que j'ai l'impression vraiment que c'est une ressource régionale qui va permettre vraiment aux populations là de pouvoir rester en région et de pouvoir se développer au niveau commercial, au niveau de ce qui fait vivre une région, le tissu commercial et industriel de la région. Je pense qu'on a des belles perspectives qui s'offrent par rapport au PFNL.
Est-ce que pour toi, le côté comestible des produits forestiers non ligneux peut vraiment soutenir une économie régionale ou il s'agit d'un autre aménagement vraiment multi-ressources dans lequel le bois a sa place comme d'autres usages de la forêt?
Oui, ça peut être intégré vraiment. C'est sûr et certain qu'on ne peut pas balayer du revers de la main tout ce qui est ressources de coupe forestière. Et donc, moi, il faut intégrer les PFNL dans les ressources forestières au même titre que la coupe ou la biomasse, et puis de mettre l'emphase sur ces ressources-là. C'est clair qu'il y a de la place pour toutes les ressources forestières, il y a encore de la place là sur les marchés. Donc, mais il faut faire de la place pour tout le monde. Et les PFNL, ils ont été mis de côté longtemps, parce que les gens ne pensaient pas vraiment que c'était des ressources au niveau financier intéressantes. Mais quand on regarde la rentabilité sur un boisé, par rapport à de la coupe forestière, où on va chercher une rentabilité maintenant aux 40 ou aux 50 ans, parce qu'évidemment, après avoir coupé, ben, il faut réaménager, il faut replanter. Donc, c'est beaucoup de frais de réaménagement, des efforts financiers pour arriver à faire de la coupe forestière dans les 30 ou 40 années qui ont suivi. Ça ne fait pas une rentabilité extraordinaire. Non. Les produits forestiers, les PFNL, produits forestiers, c'est des produits qui sont là chaque année. Et chaque année, on est capable de faire des cueillettes. Puis, un propriétaire de boisé va s'apercevoir que des ressources financières qui sortent de ces boisés, c'est peut-être plus intéressant d'aller exploiter à chaque année des PFNL et des cueillettes de PFNL au sein de son boisé en termes de revenus que de faire de la coupe forestière. D'un autre côté, moi, j'aime beaucoup l'idée que la cueillette et la pression de cueillette de PFNL, ça induit aussi le développement durable au niveau de la forêt. C'est-à-dire qu'on sait que nos champignons ont besoin de certaines essences d'arbres en symbiotique. Donc, c'est très bon pour la diversité, la biodiversité forestière. C'est-à-dire qu'on quelqu'un qui veut exploiter son boisé privé ou son boisé, on va dire, public, hein, un cueilleur qui rentre dans les boisés publics peut faire ses cueillettes aussi. Ça va inciter les gens à maintenir les peuplements, la biodiversité au niveau des peuplements forestiers. Pour moi, c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire que maintenir en place des peuplements forestiers matures et de pouvoir exploiter les produits forestiers qui s'y développent, c'est quelque chose de plus intelligent à mon avis que de faire de la coupe à blanc comme ça s'est fait pendant des années et puis de faire de replanter des essences uniques qui nous permettent plus après ça d'avoir une belle diversité de produits forestiers qu'on puisse aller cueillir.
Cette richesse de diversité, on peut imaginer aussi que ça va augmenter la faune présente, tu sais. Et est-ce que, je sais que tu as travaillé en pourvoirie, tu nous en as parlé, est-ce que tu considères les produits de la chasse, la viande de chasse comme un produit forestier non ligneux?
Très sincèrement, oui. Je considère, même si je ne suis pas un fanat de la chasse, à vrai dire, c'est même cette activité-là de chasse qui a fait que, à un moment donné, je me suis tanné de mon activité de pourvoirie. Je trouvais ça dur là de voir tomber des animaux que j'avais vus grandir sur le territoire, naître et grandir, et puis de voir que c'était finalement monnayé pour des chasseurs. Là, ça m'a un petit peu mis le moral à terre, on va dire, à l'époque. Mais il reste quand même que la viande de bois, si on ne veut pas être hypocrite, là. La viande de bois, c'est une richesse. C'est une richesse identitaire au niveau de la gastronomie locale. Quand tous les pays scandinaves, même en Europe, en France aussi, hein, je dois le dire, les viandes de gibier sont mises en valeur, elles sont valorisées dans les tables des grands restaurants. Et ici, au Québec, alors qu'on a une qualité de viande de gibier extraordinaire, que le monde entier nous envie, parce qu'il y a des chasseurs de partout dans le monde qui viennent faire des expériences de chasse ici, et qu'on ne soit pas capable de proposer ces viandes-là à la clientèle des grands restaurants gastronomiques ici, je trouve que il y a un grand manque ici à ce niveau-là. Je trouve qu'on se tire dans le pied et qu'on passe à côté de quelque chose de vraiment intéressant. Quand on voit il y a le programme de chasseurs généreux qui a été développé depuis 2 ans, je pense. Ça, c'est très intelligent comme initiative. Ça permet à des chasseurs qui ne veulent pas consommer leur viande de la donner pour des comptoirs alimentaires. Or, mettons qu'on prenne l'exemple de 10 livres de viande hachée d'orignal qu'on va passer dans un comptoir alimentaire. Les gens qui vont avoir cette viande en main, qui vont aller fréquenter les comptoirs alimentaires et qui vont avoir cette viande en main, on va dire une personne sur deux ne sera pas très content d'avoir de la viande d'orignal, parce que ce n'est pas des gens qui sont souvent habitués à manger de la viande de bois. Ils vont trouver que ça goûte bizarre, que ce n'est pas comme du steak haché, que ci, que ça. Puis, si on avait pris la même viande, le 5 livres ou le 10 livres de viande hachée d'orignal ou de steak d'orignal, puis qu'on l'avait vendu, mettons ici, au Château Frontenac ou au Château Bonentente ou à un des grands restaurants ici qui fait la promotion de la gastronomie québécoise, le prix qu'on peut en tirer de ce 10 livres de viande d'orignal, ça va équivaloir à combien de livres de viande hachée, de bœuf standard qu'on va pouvoir passer dans les comptoirs alimentaires. C'est ça qu'il faut voir là-dedans. Donc, oui, c'est bien de passer cette viande-là au niveau du programme Chasseurs Généreux pour pouvoir la proposer à des gens qui manquent de nourriture, mais ça serait beaucoup plus intelligent de revendre cette viande-là, parce que si elle est bonne pour les gens dans les comptoirs alimentaires, je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas bonne au niveau sanitaire pour qu'elle soit dégustée là, dans les restaurants. Donc, mais par contre, la valeur de la viande... Que va avoir acheté le restaurant à fort prix va nous permettre de payer peut-être 10 fois le volume de viande pour les comptoirs alimentaires. Alors à un moment donné, il faut s'asseoir et puis dire, bon, d'un côté, on a la valorisation de notre viande de bois au niveau de la gastronomie locale, puis d'un autre côté, on a aussi le côté socialisant qui nous permet, grâce à cette viande de bois, ben aussi d'amener plus d'aliments au niveau des banques alimentaires. Alors ça, c'est des choses qu'il faudrait travailler et puis envisager. Ça nous permettrait de bonifier, de valoriser davantage cette viande-là.
Intéressant. Donc, pour revenir à Chapeau les Bois, vous avez beaucoup évolué là, dans vos 8 ans d'expérience. C'est quoi la prochaine évolution, la prochaine mouture? Parce que je sais que vous êtes en plein développement et que vous avez toutes sortes d'innovations en marche. Tu peux un peu nous en parler?
Alors, on a développé notre volet de boissons là, cette année, avec l'ouverture de la brasserie avec laquelle on est en opération présentement. Ça fait juste 3 mois là qu'on a commencé, donc c'est vraiment un démarrage. On fait nos bières à base de champignons. C'est quelque chose qu'on avait mis en place déjà il y a quelques années, mais on avait un contrat de brewing, ce qu'on appelle, on faisait brasser notre recette de bière par une autre microbrasserie. Donc là, on a pris les choses en main de notre côté, on s'est équipé, puis on fait notre propre production. Le côté alimentaire va aussi se développer avec, on va essayer de faire de plus en plus de distribution au niveau d'épicerie, des marchés locaux ici. Je pense qu'il y a, il y a une bonne vibe en ce moment sur le consommer local. Donc, on va essayer de surfer sur cette vague-là et puis d'amener ces produits-là de plus en plus au niveau des magasins, des épiceries, des centres d'achat. Et puis, toujours, bien sûr, pousser à la distribution, à la restauration, d'inciter les chefs toujours et davantage à travailler ces produits-là, évidemment. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'on va se développer. C'est sûr qu'au niveau de nouveaux produits, on a quelques projets qui nécessitent des équipements spécifiques qu'on va mettre en place probablement dès l'an prochain pour commencer à travailler des choses en deuxième et troisième transformation. Donc, de pousser un peu plus loin là, au niveau des transformations de produits forestiers. Le produit brut, c'est toujours très bon. La première transformation, c'est toujours très bon. Mais la deuxième et la troisième transformation nous permettent d'aller encore chercher de la valeur ajoutée sur ces produits-là. Et puis, de développer des produits qui sont vraiment uniques. Donc, on va beaucoup s'attacher là, à travailler ces facettes-là là, de développement, puis de première et deuxième transformation et voire même troisième transformation de produits.
Sur la production de bière, là, le terme que vous utilisez, microbrasserie, est-ce que c'est vous qui l'avez inventé?
Oui, c'est un petit jeu de mots que j'ai fait. J'ai un esprit un peu... J'aime bien trouver comme ça des petites accroches. Ça doit être ma formation de publicitaire qui revient au galop.
Puis comment ça marche, la micro-brasserie? Comment les champignons sont apprêtés? Est-ce qu'on les met frais? Est-ce qu'on les met secs? À quel moment du processus de brasserie ça arrive? Sans nous dévoiler tes secrets, tu pouvais un peu nous parler des types de champignons utilisés puis de la manière?
Voilà, présentement, la micro-brasserie, en fait, on a sorti nos quatre bières, la petite gamme qu'on voulait définir. Donc, on a la bière la Lactère, on a la bière la Chanterelle, on a la Matsutake et on a la Chaga. Donc, les quatre champignons qu'on utilise, c'est le nom des bières. Alors, selon les recettes, on utilise soit du frais, soit du sec, soit les deux. Ça dépend de ce qu'on veut avoir en termes de développement aromatique sur les bières. Et puis, en association aussi avec certaines petites plantes ou aromatiques là, forestières. Parce que dans certaines bières, il n'y a pas que du champignon, on a aussi, on utilise un peu de poivre des dunes, on utilise du nard d'épinède, on utilise tous les petits produits aromatiques forestiers là, qu'on utilise au niveau alimentaire, on les réutilise aussi au niveau des bières. Donc c'est vraiment ça la manière dont on les travaille. C'est sûr, ce qu'on veut avoir, nous, c'est en règle générale, on ne travaille pas de houblon de finition pour nos bières qui sont travaillées avec les champignons sauvages pour que le côté aromatique, ce soit vraiment... le champignon qui amène ça. Là. Donc, on a une technique de brassage qui est assez classique, on va dire. Ce sont des techniques de recettes plutôt classiques, mais avec la manière dont on utilise nos produits forestiers, ça nous amène à des recettes qui sont complètement pétées, là, qui sortent vraiment des sentiers battus, puis qui donnent vraiment leur spécificité de niche à nos bières. Là. Mm-hmm.
Ouais, on entend l'importance, on t'en parlait tantôt, de deuxième et troisième transformation. Comment on fait à partir d'un produit pour s'imaginer les produits transformés qui pourraient devenir? Comment on part d'un champignon puis on en fait une bière? C'est quoi le processus de création de produits transformés?
Je peux prendre l'exemple du Chaga. Qui est le champignon que j'ai commencé à travailler pour la bière, puis que j'utilise beaucoup aussi au niveau de la transformation alimentaire, de toutes sortes de manières. On a fait aussi un petit cola, qui s'appelle le Chaga Cola, avec ce champignon-là. Tout d'abord, ça passe par beaucoup de recherches. Beaucoup de recherches au niveau des composants, des résultantes, des composantes des champignons, puis de ce qu'on obtient au niveau des décoctions, des extractions des champignons. À partir de ce travail-là, qui est vraiment très important, ben c'est derrière que nous viennent les idées de produits.
Quand tu parles de recherche, tu parles de recherche expérimentale, d'essayer de goûter.
Des recherches scientifiques, donc d'aller chercher le maximum de documents qui documentent des extractions, qui documentent les composants, les résultats. À partir de là, et je te donne un exemple avec le Chaga, j'ai fait beaucoup de recherches et d'analyses, de travaux d'extraction. Et je me suis aperçu qu'il y avait plusieurs composants très intéressants au niveau des extractions du chaga. Alors, les composants d'antioxydants, ça, évidemment, ça nous a amené à faire les boissons, notamment le chaga cola, puis la bière, qui en passant à un indice ORAC qui est supérieur à un jus de bleuet pur, la bière la chaga, qui est quand même extraordinaire là, en termes de résultats, là, pour d'avoir une bière plus antioxydante au final qu'un jus de bleuet pur, c'est quand même assez extraordinaire. En passant, c'est des analyses qu'on fait ici à l'INAF de Québec qui nous permet de faire les mesures de l'indice ORAC et de polyphénol total. Donc, c'est ce qu'on appelle le folin AC, l'indice ORAC, en termes scientifiques. Donc, c'est vraiment à travailler à partir des résultats puis de recherches, des analyses de recherche qu'on peut faire. Bon, ben, je me suis aperçu, par exemple, qu'il y avait un superoxyde dans les décoctions de chaga, les extractions à l'eau, qui s'appelle le superoxyde dismutase. Et ce superoxyde dismutase-là, c'est ce qu'on fabrique naturellement, nous, en termes d'acide qui nous permet de faire le renouvellement cellulaire de la peau. C'est un composant qu'on retrouve notamment dans le Q10. Il y a plus de superoxyde dismutase dans le chaga que dans le Q10. Or, le Q10, c'est ce qu'on retrouve dans toutes les crèmes antirides à l'heure actuelle. C'est la composante principale de ce qu'on retrouve principalement dans les crèmes antirides. C'est la composante donc de renouvellement des cellules de la peau. Alors, si j'avais pas fait les analyses et les études, et si j'avais pas pris connaissance de ces résultats-là, ben, il me serait jamais venu à l'idée de faire un savon à base de chaga. Alors voilà comment ça vient, les idées de transformation, de deuxième ou de troisième transformation d'un produit forestier. C'est d'abord de bien maîtriser toutes les composantes à l'extraction de ces produits-là. Pas seulement aromatiques et gastronomiques, comme la manière dont on sert des champignons sauvages à l'heure actuelle, c'est surtout pour leur goût et puis pour leur texture au niveau des plats. Mais quand on pousse un peu plus, puis qu'on décompose un peu en analyse les composants à l'extraction de ces produits forestiers, là on s'aperçoit qu'il y a des choses extraordinaires, puis qu'on peut développer des produits avec ces molécules-là. Alors, c'est comme ça que nous viennent les idées derrière de certains produits qu'on va retrouver sur les tablettes à base de produits forestiers. Il faut bien maîtriser, et bien connaître les produits qu'on travaille, et puis après ça, ben souvent les choses viennent par elles-mêmes.
Lequel de ces deux stratégies, tu penses, convainc le plus le public et les consommateurs? Est-ce que c'est l'aspect principe actif, micronutriments, recherche scientifique, ou l'aspect saveur, gourmet, gastronomique? Lequel tu vas amener avec ton esprit de publiciste pour convaincre quelqu'un que ton produit...
J'essaie d'imbriquer un peu ces deux concepts-là. Dans un discours publicitaire là, pour vanter les produits forestiers, je vais toujours penser à essayer d'imbriquer le côté justement goût merveilleux, texture, gastronomie, mais aussi le côté valeur ajoutée, parce que maintenant, de plus en plus, les gens sont très enclins à prendre des informations sur ce qu'ils consomment, puis ils veulent de plus en plus avoir des choses qui sont nutraceutiques, qui leur apportent des bonnes molécules au niveau de la santé. Ça, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus dans la population. On le voit, c'est un concept qui grandit depuis une vingtaine d'années maintenant. Et les gens font très attention à ça. Donc, il faut aussi leur amener cette information-là pour vraiment les intéresser à ces produits-là. Parce que les gens, ils veulent avoir des choses qui sont bonnes pour la santé. Et puis, si en plus, c'est merveilleux au goût, ben là, d'une pierre deux coups, on va dire. Mais de plus en plus maintenant, on va dire, c'est ce qui oriente la consommation des gens. De plus en plus, le côté nutraceutique et le côté santé au niveau des aliments, le côté naturel aussi, dépourvu de pollution, dépourvu de pesticides, dépourvu de tout ce qu'on met au niveau des cultures pour avoir un rendement et qui sont mauvaises pour la santé, ces molécules-là. C'est vraiment... Il faut être capable d'allier les deux facettes dans un discours publicitaire. Moi, j'irais plus sur ce côté-là, donc. Il faut travailler au niveau, créatif pour amener ces deux concepts-là dans un même discours. Mais ça peut se faire de plusieurs manières. Là, on peut faire passer le côté aussi santé en même temps que le côté très bon goût.
Donc, C'est où qu'on peut acheter tes produits? Comment on fait pour te suivre, connaître les développements?
Eh bien, les produits de Chapeau les Bois sont disponibles à Québec, sur Saint-Vallier, notre boutique qu'on a ouvert au mois de novembre, avec la brasserie qui est en opération présentement. Là, on vit un petit, on va dire, on vit un petit arrêt au niveau commercial par rapport à tout ce qui se passe autour du Covid. Il faut qu'on prenne notre mal en patience, mais on va pouvoir reprendre nos activités bien vite, je pense, compter de l'été, en espérant que ça va être quelque chose qui va être derrière nous et pas devant, parce que c'est un petit peu l'incertitude pour l'instant, mais on a notre point de vente ici à Québec, puis on est bien décidé à, dès que les mesures de confinement vont se relâcher un peu, on va probablement refaire l'ouverture de la boutique avec des mesures très strictes là, en termes d'hygiène et de sanitaire pour pouvoir servir dans les meilleures conditions les gens et puis leur permettre d'accéder aux produits qui s'en viennent, parce que les cueillettes s'en viennent. Là, on a entamé le printemps, il y a beaucoup de cueilleurs qui sont comme dans les starting blocks, étant donné que les gens sont confinés en plus, j'ai l'impression que dès qu'on va pouvoir sortir, s'aérer, il va y avoir beaucoup de monde sur la liste là, pour aller faire de la cueillette. Alors on va essayer d'approvisionner et d'amener ces produits-là pour que les gens puissent en bénéficier, puis se remonter un petit système immunitaire par la même occasion, hein, parce que bien que tout ce qui est champignons sauvages, c'est très 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 puissant en nutraceutique de toutes sortes, donc très bon pour la santé.
Santé gourmet donc. François-Xavier Fauque, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Ce fut un plaisir et puis on attend la belle saison.
Ouais, le printemps n'est pas annulé. Ok, bon, ciao.
Boire nos bières dans les dépanneurs qui sont restés ouverts, puisque ce sont des services essentiels. Alors, toute la petite gamme de bières qu'on continue de produire pour vous est disponible.
Merci François.